Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, lobo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé. Baixo xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres e do mundo illadas. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé, en pé.
La révolution sera féministe sur Radio Galère. Merci d'être présent. Donc c'est la troisième émission depuis la période de confinement, émission fabriquée depuis mon chez-moi. Alors pour commencer, quelques actualités, pas forcément réjouissantes. Et puis après, je suis en train de lire un livre qui m'aide beaucoup et dont je vais vous parler. Un livre vraiment passionnant, intéressant, inspirant, qui s'appelle « Les sœurs savantes », écrit par Natacha Polony sur Marie Curie et sa sœur. Et donc je vous en parlerai de la meilleure façon possible et je pense que cela vous donnera envie de le lire. Voilà. Donc pour commencer, un communiqué de presse du Haut Conseil à l'égalité que je relais parce que je le trouve intéressant. Voilà, il correspond aussi à mes réflexions du moment et qui parle du fait que le confinement est un révélateur des rôles sociaux des femmes et des hommes. Effectivement, cette période de confinement met en lumière avec une acuité inégalée la place, les rôles et le traitement des femmes dans notre société. Jamais un tel laboratoire des rôles sociaux de sexe n'a permis de révéler aussi clairement les différences, voire les inégalités qui régissent les relations entre les femmes et les hommes dans notre pays et dans le monde. Depuis le début de cette pandémie, pouvoirs publics et associations ont eu à cœur de lutter sans délai contre ce premier fléau que sont les violences intrafamiliales à l'encontre des femmes et des enfants. Violences exacerbées par l'enfermement dans ce qui est souvent le huis clos de l'enfer conjugal. Ainsi, les interventions des forces de sécurité intérieure au domicile pour violences conjugales ont augmenté de plus de 30% depuis le début du confinement. Autre sujet de vigilance très vite mis en lumière, celui de l'accès aux droits sexuels et reproductifs et notamment le maintien des actes d'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans les hôpitaux et l'élargissement de l'accès à l'IVG médicamenteuse, même si demeure irrésolue la question du dépassement du délai légal pour pratiquer une IVG. Donc je reviendrai un petit peu plus en détail sur cela tout à l'heure. Mais il est des domaines moins directement visibles et pourtant extrêmement révélateurs de la construction de notre modèle social. Les personnes qui assurent aujourd'hui majoritairement la survie quotidienne de notre pays en termes de santé, en contact direct avec les malades, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes ou le personnel assurant la restauration ou le ménage, à l'hôpital ou dans les EHPAD, ce sont des femmes. Les personnes qui permettent aujourd'hui majoritairement que l'accès aux denrées alimentaires et aux biens de première nécessité soit possible, en tant que caissière dans les supermarchés ou dans les magasins de détail, en contact direct avec le public, ce sont des femmes. Certes, nous n'oublions pas tous ceux et celles qui assurent le contrôle du confinement, en contact direct également avec le public, ni celles et ceux qui assurent la logistique de cette organisation de crise, non plus que toutes celles et ceux qui doivent continuer à assurer les fonctions vitales de notre pays. Mais ce qui interroge ici, c'est que les fonctions, traditionnellement regroupées sous le vocable « care », le plus souvent sous-évaluées, voire infériorisées, prises en charge par des travailleurs souvent précaires, sont précisément celles qui contribuent à notre survie lors de cette pandémie. Plus encore, la mise en œuvre du télétravail à grande échelle, des femmes et des hommes dans leur espace de vie où ils doivent prendre en compte quotidiennement non seulement les tâches domestiques, mais s'ils en ont le soin des enfants et leur éducation, constitue un laboratoire in vivo de ce que pourrait être un partage des tâches à part égale entre les femmes et les hommes. Voilà que fait irruption dans la charge mentale des parents le soin éducatif, dont la difficulté croissante au fil des jours du confinement les font regarder avec des yeux tout autres, on peut l'espérer, une autre profession occupée majoritairement par les femmes. Mais comment font-elles ? Je n'en ai qu'un, elles en ont 30. Profession mal rétribuée et insuffisamment considérée, celle des personnes qui éduquent nos enfants, depuis la crèche jusqu'au lycée. Et dans le même temps, ce laboratoire conjugal change-t-il les pratiques et oriente-t-il les couples vers un partage égalitaire ? Ou bien conforte-t-il au contraire les rôles sexués, faisant porter sur les femmes la majeure partie de la charge mentale et émotionnelle, tandis que les conjoints, aux métiers souvent mieux rémunérés ou jugés plus importants, se consacrent plus facilement à leur télétravail. Cette crise, bien évidemment, exige que soient délivrés prioritairement des messages de survie en termes de santé et de lutte contre les violences et requiert un front uni contre cette pandémie. Les femmes et les hommes sont engagés dans des efforts au coude à coude et nous saluons ici cette mobilisation unanime qui force l'admiration et le respect. Mais peut-être faudra-t-il un jour se demander pourquoi un message tout simple des pouvoirs publics préconisant le partage 50-50 entre femmes et hommes des tâches de la maison n'a pas trouvé place sur nos écrans. Peut-être aussi faudra-t-il se demander pourquoi les médias ont reçu majoritairement des hommes sur leur plateau. Si l'on sait que les postes de responsabilité à l'hôpital sont surtout dans la main des hommes, les médias, poursuivant leurs efforts entrepris depuis quelques années, ne devraient-ils pas mieux mettre en valeur les expertes sur les plateaux ou devant les micros ? Des expertes de premier plan siègent à l'Académie des sciences et à celle de médecine, et de nombreuses femmes médecins ou soignantes pourraient utilement donner leur avis sur la meilleure manière de combattre la pandémie et être beaucoup mieux associées au débat sur le drame qui nous frappe. Enfin, il faut rappeler le caractère révélateur des inégalités jouées par le conflit ou la crise au niveau international et son impact disproportionné sur les femmes, comme le montrent les questions à l'agenda « Femmes, paix et sécurité ». Faut-il rappeler également la nécessaire implication des femmes à la sortie de crise aujourd'hui, avec ses possibles en termes de reconstruction d'une société plus égalitaire ? Il s'agit d'un moment clé et d'un test pour la diplomatie féministe, dont l'un des objectifs devrait être de modifier de manière durable les structures inégalitaires du pouvoir patriarcal. Violence, droits sexuels et reproductifs, place et statut des femmes dans les métiers, dans le foyer, dans les médias, dans les organes de décision et de reconstruction. À l'évidence, cette crise aura beaucoup de choses à nous apprendre. C'est ce sur quoi le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sera mobilisé dans les mois à venir. Voilà. Alors, il y a eu aussi un autre communiqué du Haut-Commissaire à l'égalité, intéressant sur les violences conjugales et le confinement, qui dit, et je suis d'accord avec ça, « la seule solution de protection est l'éviction de l'agresseur ». Donc, le HCE salue également l'action d'autorité judiciaire qui permet de mettre en œuvre les procédures pénales d'urgence ou de délivrer en urgence des ordonnances de protection pour neutraliser les violents conjugaux et assurer la sécurité des victimes. Mais le HCE rappelle qu'aucune mise en sécurité des victimes n'est possible sans organiser la décohabitation entre l'agresseur et la victime. Le HCE note les 20 000 nuitées d'hôtel annoncées ce jour par la secrétaire d'État aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations pour les femmes victimes et les agresseurs. et le HCE estime que 500 places d'hôtel sont nécessaires en ce sens pour le mois d'avril au niveau national. Sur la base d'un coût moyen de la nuitée de 40 euros, le financement est donc de 600 000 euros pour le seul mois d'avril. Maintenant, avant de repasser un petit peu sur le sujet de l'IVG, je vais rebondir sur ce que disait avant le HCE et qui m'interroge aussi, c'est-à-dire que les fonctions appelées le care sont souvent sous-évaluées, infériorisées et prises en charge le plus souvent par des travailleuses, des femmes qui sont précaires, alors qu'elles contribuent effectivement, on se rend compte, à notre survie. En ce moment. Et du coup, j'ai lu l'hommage à sa mère par Zineb El Razoui qui m'a vraiment beaucoup plu. Et je ne savais pas que ce que faisait sa maman. Donc je vais vous lire cet hommage parce que je le trouve vraiment très beau. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Zineb El Razoui, j'en avais parlé dans un podcast en mai dernier qui s'appelait Extrême religieux et politique en mai 2019, le 13 mai, vous pouvez le retrouver. J'avais parlé de cette femme, Zineb El Razoui, qui est une journaliste qui a été rendue mondialement célèbre suite aux attentats de Charlie Hebdo, dont elle est rescapée. Elle est diplômée en sociologie des religions. C'est une libre penseuse, une militante des droits humains et des libertés individuelles, notamment la liberté de conscience. Elle est ainsi l'adversaire la plus acharnée de l'islam politique et la voix des athées de culture musulmane en France. Alors, je vous lis donc l'hommage qu'elle rend à sa mère. Dans ma vie de militante, on m'a souvent complimenté pour mon courage, celui de me dresser face à l'obscurantisme islamique, de dire ce que je pense sans jamais céder à la bien-pensance. J'acquiesce toujours courtoisement et remercie mon interlocuteur pour le compliment, mais au fond de moi, le mot courage a toujours eu le visage de ma mère. Aide médico-psychologique de nuit dans un EHPAD, elle accompagne les personnes âgées dans les gestes du quotidien. Toilette, repas, douche, couchage, soins, etc. Son travail, c'est de préserver la dignité de ceux qui n'ont plus toute leur tête en choisissant leur tenue du jour. Lorsque nous avons un résident atteint d'Alzheimer, nous regardons ses photos d'avant pour nous conformer à son style vestimentaire, m'avait-elle dit un jour. En accompagner un autre atteint de démence qui déambule la nuit pour qu'il ne se blesse pas et ne réveille pas les autres, porter ceux qui ne peuvent plus se lever aux toilettes ou à la douche du haut de son 1m60, soigner les escarres, servir les repas, expliquer à la vieille qui guette l'arrivée de son mari par la fenêtre qu'il est décédé depuis 20 ans, et aussi faire des toilettes mortuaires, une déchirante routine dans ces mouroirs que sont les maisons de retraite. À plus de 60 ans, elle s'occupe de personnes qui n'ont parfois que quelques années de plus qu'elle. Pour quelques centaines d'euros de plus que le SMIC, elle paye son loyer, ses charges et ses impôts et dépense souvent le peu qui lui reste chez le kiné pour qu'il lui remette le dos après avoir déplacé un résident corpulent. Elle voit avec angoisse approcher la retraite. Ayant vécu une bonne partie de sa vie à l'étranger, au Maroc, elle n'a cotisé qu'une vingtaine d'années et partira avec une misère, bien moins que le montant de son loyer. Bien moins aussi que le minimum vieillesse auquel elle n'a pas encore droit. Et que perçoivent des personnes qui n'ont parfois jamais travaillé en France. Les EHPAD étant des établissements privés, leurs employés ne sont pas des fonctionnaires et la pénibilité n'y est pas reconnue. Dans l'EHPAD où travaille ma mère, le personnel n'a reçu des masques que vendredi dernier. Une personne âgée y est déjà décédée du Covid-19. 20 résidents en sont atteints, dont 3 hospitalisés, dans un état grave. Et quelle ironie, lorsque ma mère quitte son domicile le soir vers 20h pour se rendre à son travail, pile au moment où les personnes confinées sortent sur leur balcon pour applaudir les soignants, de se faire régulièrement agresser verbalement par des gens qui lui hurlent depuis leur fenêtre « Restez chez vous !» Hommage à elle et à tout le personnel des EHPAD, ses parents pauvres du système de santé. C'était donc hommage à ma mère par Zineb El Razoui. Ça date du 27 mars. Je vais revenir maintenant sur ce qu'il en est de l'accès à l'avortement en France et en Europe actuellement. L'IVG médicamenteuse est acceptée jusqu'à 9 semaines à domicile, ce dont nous nous félicitons. Il y avait une pétition faite par le collectif Avortement, par le collectif national du droit des femmes, qui s'intitulait « Covid-19, les avortements ne peuvent plus attendre ». Je vous en avais parlé dans ma dernière émission. Cette pétition a recueilli plus de 50 000 signatures qui a contribué justement à cette prise de décision. Mais le problème n'est pas résolu pour autant. Il y a des femmes qui ont dépassé les 9 semaines et qui ont peur de se rendre à l'hôpital et qui auront dépassé les 12 semaines au moment du déconfinement. Il y a des femmes pour qui l'IVG médicamenteuse est contre-indiquée. Il y a des femmes qui font le choix d'une autre méthode pour pouvoir avorter. Le collectif Avortement Les Femmes Décident déclare donc que les femmes doivent avoir le choix de la méthode pour avorter et que compte tenu du fait qu'il risque d'y avoir beaucoup de femmes désirant avorter qui seront hors délai au moment du déconfinement, il est plus que jamais nécessaire de prolonger les délais pour avorter de la durée du confinement. Alors qu'en est-il en Europe pour l'avortement? Eh bien, récemment, il faut savoir que la Pologne s'apprête à débattre d'une loi draconienne qui restreindrait encore l'accès à l'avortement. Il y a actuellement 100 organisations qui réclament des mesures urgentes pour garantir ce droit fondamental qui est menacé en Europe. Malgré la pandémie, les gouvernements européens ont pourtant la responsabilité de garantir sans attendre l'accès à l'avortement en temps voulu et en toute sécurité pour les femmes et les jeunes filles. On le voit donc, l'accès en ce moment à l'avortement en Europe est en souffrance. Dans de nombreux pays européens, le manque de mesures gouvernementales destinées à garantir l'accès aux services, produits et informations essentielles en matière de santé sexuelle et reproductive pendant la pandémie est particulièrement préoccupant. Les femmes et les filles sont soumises à des restrictions considérables de leur accès aux services essentiels de santé sexuelle et reproductive, particulièrement en ce qui concerne les soins d'avortement, les soins post-avortement et la contraception d'urgence. En effet, de nombreux hôpitaux et cliniques ont réduit au strict minimum les services de santé reproductive et ou les ont fermés en raison notamment de la pénurie de soignants et des réaffectations de personnel. Pour finir sur les actualités liées au confinement, je vais parler de la situation des personnes en situation de prostitution, qui est tout à fait préoccupante. Et je vais relayer le communiqué de presse de l'Assemblée des femmes, dont la présidente est Laurence Rossignol, et qui a aussi été écrit par Maud Olivier, qui est rapporteur de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le confinement ne doit pas retarder la mise en sécurité des personnes prostituées. Je relayerai aussi le communiqué de presse qui parle de la même préoccupation du mouvement du Nid, puisqu'il faut savoir qu'en ce moment, certaines personnes voient l'arrêt de leur démarche de sortie de prostitution. Il y a 4 ans, le vote de la loi de lutte contre le système prostitutionnel du 13 avril 2016 actait que la prostitution constitue une violence faite aux femmes, un obstacle à l'égalité, une atteinte à la dignité humaine et ouvrait de nouveaux droits pour les personnes prostituées. Or, cette loi est toujours peu et mal appliquée sur tout le territoire. L'Assemblée des femmes s'inquiète de la situation très difficile et de la précarité dans laquelle se trouvent les personnes prostituées, en majorité étrangères, souvent la proie de réseaux de trafic d'êtres humains. Elles sont victimes de tous les facteurs inhérents à l'activité prostitutionnelle et en particulier de la violence. L'Assemblée des femmes condamne fermement à ce sujet l'appellation de « travailleuse du sexe », utilisée à dessein par celles et ceux qui veulent ériger l'achat d'actes sexuels en activité économique et régulièrement relayée dans les médias. La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. La prostitution est un acte de contrainte économique. C'est toujours une situation d'asservissement, jamais un travail. L'Assemblée des femmes salue l'accompagnement apporté par les associations de terrain qui maintiennent aide et contact auprès des victimes de la prostitution, autant que faire se peut, malgré le confinement et leur peu de moyens. Mais il apparaît évident que seul un revenu de base d'un montant égal au seuil de pauvreté permettrait de répondre aux besoins vitaux urgents de tous et toutes. Alors là, je vous relaye donc ce qu'en dit aussi donc le mouvement du Nid, qui lutte pour accompagner les personnes prostituées. Donc ils disent, dans un contexte où certaines voient l'arrêt de leur démarche de sortie de prostitution, nous assurons un soutien psychologique constant, au moins téléphonique. Nous les aidons à avoir accès aux produits de première nécessité, nourriture, couche, culotte, attestation. La plupart de celles avec qui nous sommes en contact restent confinées. La question de l'hébergement d'urgence reste la plus tendue. Dans de nombreuses régions, le 115 n'est plus en mesure de répondre, dans le Var, dans le Haut-Rhin. Des personnes que nous accompagnons sont réticentes à s'orienter vers l'habitat collectif par peur de la contagion. Nous souhaitons pouvoir rouvrir les permanences dans des conditions de sécurité optimales une fois le confinement terminé. Voici nos recommandations et revendications. Le droit au séjour. Nous avons obtenu l'assurance que les titres de séjour étaient prolongés automatiquement de 3 mois. Parcours de sortie. Les parcours de sortie ont été prolongés de 6 mois, ainsi que les droits qui y sont liés, et notamment l'aide financière, l'AFIS. Nous demandons à ce que toutes les personnes prostituées puissent bénéficier d'un minima social. Nous souhaitons que soit rapidement lancée une mobilisation générale des commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains. Donc que soit vraiment appliquée cette loi, comme le disait l'Assemblée des femmes. Cette loi n'est pas encore assez appliquée. Et l'hébergement, nous demandons que les commissions départementales de lutte contre la prostitution établissent de façon urgente un protocole avec les associations agréées pour une orientation vers des centres d'hébergement spécialisés prostitution et ou violences faites aux femmes, si besoin réquisition de chambres d'hôtel et mise à l'abri. Enfin, les clients habituels des prostituées continuent de contacter par téléphone ces personnes prostituées. Certains proposent plus d'argent pour qu'elles acceptent de le recevoir à tout prix. Nous les aidons face à cette situation. Nous demandons à ce que ceux qui sont repérés soient interpellés et poursuivis pour mise en danger d'autrui. Nous regrettons en particulier que le gouvernement n'ait pas à ce jour pris toutes les mesures nécessaires pour organiser l'accompagnement de sortie de la prostitution, avec la mise en place partout sur le territoire des commissions départementales et le suivi de leur fonctionnement tel que prévu par la loi, élément clé pour répondre à la situation dramatique que vivent les personnes prostituées. Mener les actions nécessaires pour lutter contre ce fléau qu'est la prostitution doit faire partie des priorités de notre gouvernement sans plus attendre.
Some cufflinks, you brought me something.
Maintenant, comme promis, je vais vous parler de Marie Curie et aussi de sa sœur que j'ai découvert, donc Bronia Dluska, grâce au livre de Natasha Henry, Les sœurs savantes. Donc pourquoi s'intéresser à Marie Curie ? Eh bien, c'est une femme fascinante, aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau humain, qu'au niveau féministe. Effectivement, l'histoire l'a auréolée de la gloire des grands génies, mais sa vie fut avant tout placée sous le signe de la lutte, de la détermination et de la résistance, tout entière tendue par une puissante volonté de rébellion dans un monde dominé par les hommes. Comme ses découvertes, Marie Curie a fait souffler un vent nouveau et radieux. Sa personnalité, merveilleusement iconoclaste, a ouvert une voie nouvelle. Très vite, elle est devenue un exemple pour toutes les femmes qui, comme elle, voulaient réaliser leurs rêves scientifiques, devenir chercheuses ou professeurs, malgré une société qui les confinait au rôle de maîtresse de maison et de spectatrice innocente du monde. La jeune immigrante polonaise a réussi à bousculer les conventions, armée uniquement de sa passion de la science et de la conviction profonde que seul le savoir et l'éducation peuvent changer le monde. Elle a remporté des succès incontestés dans des disciplines qui, à cette époque, étaient généralement interdites aux femmes. Elle est même devenue la scientifique la plus primée de tous les temps. Elle fut la première femme à remporter le prix Nobel de physique partagé avec son époux Pierre Curie. Petite parenthèse sur ce qu'en est l'égalité femmes-hommes au niveau des prix Nobel. Effectivement, Marie Curie a eu non seulement un mais deux prix Nobel. En fait, c'est la seule double lauréate du prix Nobel en physique puis en chimie. Et elle est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque seuls 5% des personnes récompensées par un prix Nobel sont des femmes. Et depuis la création de cette institution, en 1901, 48 femmes ont été récompensées sur 923 lauréates, dont 27 organisations. Donc 5% des personnes sont des femmes. La reconnaissance de l'apport des femmes à l'humanité est encore plus faible dans les domaines scientifiques. À ce jour, on compte seulement une femme prix Nobel en économie. Je vous fais rapidement son portrait, Elinor Ostrom, puisqu'elle est assez méconnue, je pense. Donc, née en 1933, morte en 2012, elle a dû enseigner la natation pour financer son entrée à l'université et on lui refusa, parce qu'elle était une femme, de suivre des cours de trigonométrie. Cela n'empêchera pas cet économiste et politologue de mener de brillants travaux reconnus très tardivement. Elle a notamment démontré que les biens communs tels que l'eau, les forêts, etc. peuvent être efficacement gérés par des associations d'usagers. Donc je reviens à un petit portrait de Marie Curie. Elle fut donc également la toute première personne donc à recevoir un second prix Nobel, décerné à titre personnel cette fois, et dans une autre discipline, la chimie. Après le prix de physique qu'elle avait partagé avec son époux Pierre Curie. Ses découvertes dans le domaine de la radioactivité ont joué un rôle essentiel dans les grands progrès scientifiques du début du XXe, mais au-delà de sa brillante carrière de chercheuse et de sa réussite professionnelle éclatante, son plus grand mérite a été d'être une véritable pionnière. Elle a montré la voie aux femmes dans le monde scientifique, leur ouvrant un chemin difficile mais praticable. Sa forte personnalité, son immense abnégation, sa fierté, sa persévérance l'ont aidé à surmonter les obstacles les uns après les autres. À une époque où très peu de femmes avaient la possibilité de poursuivre des études supérieures, elle a été l'une des premières à obtenir un doctorat, après avoir passé deux licences, respectivement en sciences physiques et en mathématiques. Elle fut aussi la première femme à diriger un laboratoire scientifique et à enseigner à la Sorbonne, traçant discrètement sa voie avec une incomparable énergie. Elle a combattu les idées reçues, démontrant par l'exemple que les femmes n'étaient ni intellectuellement inférieures ni condamnées à devenir dans la pratique scientifique les assistantes de leur mari. Elle entreprit ainsi des recherches sur la radioactivité et découvrit avec l'aide de son mari et après des années d'efforts les deux éléments chimiques qui les rendirent célèbres, le radium et le polonium. La gloire ne lui tourna pas pour autant la tête et elle sut garder les pieds sur terre. De sa mère Bronislawa, professeure et femme de science, elle apprit la valeur de l'indépendance, du travail et de la culture. De son père, Vladislao, qui sur le plan des études ne fit jamais de distinction de genre entre ses enfants, Marie hérita un profond amour de la connaissance et un féminisme avant la lettre, grâce auquel elle ignora naturellement les inégalités entre les sexes. Pour elle, il ne faisait pas de doute que les femmes et les hommes étaient intellectuellement égaux. Partisane des thèses positivistes, elle était convaincue que l'éducation et la science sont les seuls moteurs de progrès social. Au milieu des éprouvettes, elle a non seulement satisfait sa curiosité et son ambition scientifique, mais elle a aussi fait l'expérience d'une égalité réelle où les êtres ne brillent que par la pensée et la créativité. Hors des laboratoires, Marie Curie fut une idéaliste. Pour elle, les biens matériels étaient accessoires et seules les causes essentielles, comme la liberté de l'individu et le bien-être de l'humanité, méritaient qu'elle y consacrât son énergie. Elle lutta dès l'enfance contre la répression russe dans sa chère Pologne. Elle ne breveta jamais ses découvertes, qu'elle estimait essentielles au progrès de la médecine, et participa à la défense de la France pendant la Première Guerre mondiale. Après, avec une détermination et un courage hors normes, elle partit seule en train à Bordeaux pour mettre à l'abri le gramme de radium conservé dans son laboratoire. Elle n'hésita pas non plus à prendre le volant pour conduire jusque sur le front ses fourgonnettes radiologiques, les fameuses petites curies, qui sauvèrent des centaines de blessés grâce à la technologie des rayons X. Après la mort accidentelle de Pierre Curie, son grand amour et complice, son travail et sa valeur scientifique furent remis en cause. Même son entourage lui témoignait de la pitié et la traitait comme une pauvre veuve. Mais loin de rompre, elle retomba amoureuse, défiant avec un naturel étonnant les conventions sociales de son temps et le jugement de l'opinion publique qui l'accusait d'immoralité. Avec une force saisissante, elle défendit sa carrière et son autorité contre ceux qui tentaient de la faire chanceler en s'attaquant à sa vie intime. Inflexible, Marie Curie mourut la tête haute. Malgré les préjugés, les calomnies et les injustices subies, elle ne renonça jamais. Elle ne laissa ni la maternité, ni le veuvage, ni sa nouvelle vie amoureuse, ni même sa simple condition de femme jeter un voile sur ses conquêtes. Sa vie, symbole de l'émancipation scientifique de la femme, nous rappelle aussi à travers la figure de sa mère, mais également de sa fille Irène, qui obtiendra également le prix Nobel de chimie, combien sont primordiales les références féminines. Donc après ce petit portrait très très résumé de Marie Curie, je vais vous parler justement du livre que je pense que ça va vous donner envie. Je suis en train de le lire, Les Sœurs Savantes, de Natacha Henry. En fait, bon, c'est une essayiste, historienne, journaliste féministe. Donc, elle est diplômée en histoire contemporaine d'une école qui s'appelle London School of Economics et Paris 4. Et elle travaille pour des projets nationaux, internationaux de prévention des violences faites aux femmes. Et elle est en lien étroit aussi avec des associations de terrain. Elle a écrit plusieurs livres, donc Les Sœurs Savantes, c'est son 7e livre. Elle a découvert que la sœur de Marie Curie, donc qui s'appelle Bronia Dluska, avaient une relation extraordinaire, elles avaient toutes les deux une relation extraordinaire, et que Marie Curie n'aurait jamais été Marie Curie sans sa sœur, et que le courage de Marie Curie s'est construit sur cette solidarité, et c'est une valeur qui l'a tout à fait intéressée, fascinée, tout comme moi. Et voilà, donc je vais vous faire écouter sans plus tarder, en fait vous allez entendre Natacha Henry, et en fait j'ai retrouvé une conférence qu'elle a fait à Paris, justement au musée Marie Curie à Paris. Bon, c'est une conférence de 2 heures, donc je vais vous faire écouter seulement quelques extraits, et entrecoupé de sa présentation du livre, vous entendrez que j'ai choisi justement le début du livre.
C'est un livre que j'aime beaucoup, moi. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais enfin, j'y tiens particulièrement. parce qu'il est porteur de plusieurs valeurs. Enfin, mes personnages sont porteuses de valeurs auxquelles je tiens beaucoup. Et tous mes travaux portent, disons, sur la lutte contre les empêchements. C'est-à-dire que, notamment pour les femmes dans l'histoire du monde, il y a parfois des empêchements. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est comment ces femmes-là vont faire exploser les empêchements et mener leur vie, la vie dont elles rêvent et dont elles ont envie. Ce n'est pas toujours facile, encore aujourd'hui, mais Marie Curie et sa sœur Bronia ont donné un exemple vraiment intéressant et j'espère que ça peut faire réfléchir à des solutions et à une certaine forme de courage. J'ai lu des biographies de Marie Curie et dans toutes les biographies de Marie Curie, il est écrit qu'elle est née en Pologne, à Varsovie, ce qui est vrai, et qu'elle a rejoint sa sœur à Paris. Donc, il y a quelque chose qu'on sait, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est polonaise et qu'elle est venue en France pour faire ses études. Et l'image qui est souvent véhiculée, c'est qu'elle est toute seule, dans sa petite robe noire, à faire ses travaux, très, très difficiles, très prenants, très austères, jusqu'à ce qu'elle rencontre Pierre Curie et qu'elle fasse la même chose avec lui, des travaux très prenants, très austères, dans sa petite robe noire, donc avec quelqu'un à côté d'elle qui est Pierre Curie. Mais quand j'ai lu dans les biographies de Marie Curie qu'elle rejoignait sa sœur à Paris, donc on est à la fin du 19e siècle, ça m'a beaucoup choquée parce que je me suis dit finalement, ce personnage n'est pas si seul et quand quelqu'un vous attend quelque part, l'exil n'est pas le même. Elle n'était pas complètement toute seule s'il y avait une sœur de l'autre côté quand même. Donc je suis rentrée dans cette histoire avec beaucoup d'intérêt et j'ai donc trouvé qu'au fond, cette sœur, qui avait 2 ans de plus qu'elle, avait été aux côtés de Marie pendant toute sa vie entière. Donc là, c'est la fratrie, la petite famille à Varsovie quand elles sont enfants. Il y avait une grande sœur qui s'appelait Sofia, qui était de fait l'aînée de la famille. Mais les temps sont très difficiles pour ces familles-là à Varsovie à l'époque. Les Russes occupent Varsovie et donc on n'a pas...
Ça vous donnera certainement, tout comme moi, la grande envie de continuer toute cette histoire passionnante. Voilà, merci. Et l'émission se terminera sur cela. Et du coup, je vous dis à bientôt. Merci.
Très mauvaise de tout ce petit monde et donc... Les étudiants trimballent des puces, des poux, des trucs affreux et ces bestioles-là véhiculent le typhus. Et Sofia va donc attraper le typhus et mourir assez vite à l'âge de 11 ans. Donc ça laisse la fratrie sans cette sœur aînée, ce qui explique pourquoi Bronia devient de fait la sœur aînée. Alors il y a un frère, mais dans ces cas-là, le frère, il n'est pas tellement au même niveau que les sœurs, parce que lui, il a des droits que n'ont pas les filles. Et puis, la parité domestique est, est très très loin encore à cette époque. Et donc, c'est Bronia qui va vraiment prendre en charge la famille. La petite Marie, c'est la dernière. Elle est née en 1867. Donc, elles ont 2 ans de différence, mais c'est 2 ans qui comptent beaucoup parce que la petite est vraiment la petite dernière et la grande est vraiment la grande. Et ce lien-là va se vérifier tout au long de leur existence. Leur maman va mourir de la tuberculose, puisque dans ces temps-là, c'était une maladie qui faisait des ravages et des millions de morts. Donc là, il y a une photo de cette maman. Et donc, raison de plus pour que Bronia devienne vraiment ce personnage adulte aux côtés de son père, finalement. Et elle va porter la famille. Donc ça, c'est... au cimetière de Varsovie. Et donc, les 2 jeunes filles vont grandir dans l'idée qu'il faut absolument faire des études. Et la génération du père de Marie et Bronia va se dire « Maintenant, on arrête de prendre les armes, on arrête de faire couler le sang, on arrête tous ces risques et ces emprisonnements. Et les enfants, vous allez vous en mettre dans la tête. Et ce que vous aurez dans la tête, c'est ça qui va servir pour construire un monde meilleur. » Franchement, c'est une super idée. Il avait bien raison. Et donc, elles vont donc apprendre. Et une autre philosophie qui est en cours à cette époque, c'est que ce que tu as appris, personne ne peut te le prendre. Et donc, comme ils ont toujours peur de tout perdre, puisque les temps sont vraiment policiers et l'occupation, un temps d'occupation, comme ils ont peur de tout perdre, ben, il faut se mettre plein de choses dans la tête parce que ça, au moins, on ne pourra jamais nous le prendre. Donc elles apprennent, et le dernier message de cette génération de son père, de leur père, c'est que c'est les sciences qui sont au-dessus de tout. Parce que les sciences, on peut les prouver, ça marche avec des expériences concrètes, et c'est pas des fantaisies poétiques. Alors moi je suis plutôt littéraire, j'étais assez triste de découvrir ça, mais finalement il n'avait pas complètement tort. Et il va les mettre toutes les deux dans cette idée que les femmes, comme les hommes, doivent progresser grâce aux sciences. on est quand même à la fin du 19e, donc il y a quand même des progrès scientifiques de tous côtés, en médecine, dans les transports, les ingénieurs. Donc évidemment, elles vont rejoindre cette espèce de philosophie générale. Et elles passent leur bac. Et là, c'est la tuile. Les Russes ont interdit aux filles de faire des études universitaires. Donc c'est épouvantable parce qu'elles ont grandi dans l'idée que les filles et garçons avaient exactement les mêmes droits. Ces familles-là croyaient vraiment à l'égalité des chances. Elles ont grandi aussi avec l'idée que l'éducation était pour tous les enfants de tous les milieux. Et tout d'un coup, parce qu'elles sont des filles, ben, c'est plus possible. Donc c'est vraiment la catastrophe. Et Bronia rêve de faire médecine. Alors c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc elle essaye de se... Enfin, il y a des tas de scènes complètement dingues où la petite lui dit « t'as qu'à te déguiser en garçon ». Il y en a plein qui ont fait ça à cette époque, hein, de s'habiller en homme et pour passer dans des endroits interdits. Et puis finalement, Marie va lui dire « écoute, moi j'ai une idée ». Et ça, c'est le pacte fondateur de toute leur histoire. La petite Marie, qui a 16-17 ans, va dire à sa grande sœur, puisqu'on parle le français, parce que le père leur a fait apprendre le français, parce qu'on ne sait jamais... Donc, heureusement, elle parle le français. Et donc, la petite Marie va dire, mais comme la Sorbonne est ouverte aux filles, t'as qu'à partir à Paris. Donc, Bronia va dire, bah, c'est sympa, mais avec quel argent ? Vu que papa, il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc, Marie lui dit, je vais me faire engager comme gouvernante ici en Pologne. Tu pars et je t'envoie la moitié de mon salaire. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, cette jeune fille fait cette espèce de sacrifice de devenir gouvernante. Et grâce à ça, Bronia prend son train et part à Paris.
Introduction. Marie Curie, née Maria Sklodowska, figure parmi les femmes les plus formidables de l'histoire contemporaine. À cela, plusieurs raisons. Marie Curie a découvert la radioactivité, obtenu 2 prix Nobel et prouvé que l'ambition scientifique n'était pas réservée aux hommes. Ensuite, en épousant Pierre Curie, elle a montré qu'une austère savante pouvait aussi aimer de toutes ses forces. Ajoutons enfin que ses convictions humanistes, égalitaires et laïques ont guidé tout son travail de chercheuse. Et que, européenne avant l'heure, elle a su appartenir à la fois à la France et à la Pologne, qui lui ont fait les honneurs du Panthéon lors d'une cérémonie commune. De Marie Curie, j'ai longtemps su le minimum. Née en 1867, elle a quitté Varsovie pour Paris, étudié jour et nuit dans une mansarde du Quartier Latin, puis travaillé avec Pierre Curie. J'imaginais la jeune Marie débarquant toute seule en France, supportant vaillamment la solitude, la faim et l'exil pour satisfaire sa vocation scientifique avant de croiser le grand amour. Ses biographes mentionnaient toutefois, en un peu de mots, qu'elle avait rejoint sa sœur Bronia à Paris. Sa sœur ? N'était-ce pas alors Bronia qui était à Paris la première ? Et qui aurait connu les difficultés du départ, de la distance et de l'adaptation à une terre étrangère ? J'ai voulu en savoir davantage. J'ai appris que Bronia avait quitté Varsovie, en effet avant Maria, pour faire des études de médecine et devenir gynécologue. Maria, qui n'avait que 18 ans, travaillait en Pologne comme gouvernante d'enfants et lui envoyait une partie de son salaire. À la Sorbonne, Bronia avait rencontré son futur mari, un révolutionnaire polonais du nom de Kazimir Dluski. Quelques années plus tard, ils avaient hébergé la jeune Maria chez eux, dans le 19e arrondissement. En gagnant Paris, Maria était devenue Marie. Aux archives du musée Curie à Paris et à la Bibliothèque nationale de France, j'ai pu lire des lettres inédites échangées par les deux sœurs qui venaient compléter celles publiées par F. Curie dans son livre sur sa mère, Madame Curie. Hélène Langevin-Joliot, la petite fille de Marie Curie et Pierre, a accepté de me recevoir pour évoquer sa grande-tante, Bronia, disparue en avril 1939. Je suis allée à Varsovie, où Bronia et Marie sont nées. Leur descendante, généreuse petite nièce, m'ont offert du thé chaud et quelques tendres anecdotes. Dans de beaux bâtiments aux toits couverts de neige, de méticuleux archivistes m'ont confié des dossiers poussiéreux qui parlaient de Bronia, de sa carrière médicale et de ses actions philanthropiques et de son mari, Kazimir Dluski, pneumologue et figure politique. J'ai passé des heures à l'Institut Sklodowska-Curie, un majestueux centre de soins et de recherche construit par Bronia pour et avec sa sœur Marie Curie. Dans les Carpates, j'ai visité le sanatorium qu'ils ont fondé en 1900 grâce en partie à l'aide financière des Curie. À Zakopane, au musée des Tatras, de nouvelles boîtes de carton. et de découvrir entre autres que pendant la Première Guerre mondiale, Bronia a converti son sanatorium en hôpital militaire. Tandis qu'en France, sur le front, Marie Curie radiographiait les soldats blessés. La guerre, le seul moment de leur vie où elles n'ont pas pu entretenir un contact permanent. Au fil des archives et des reconstitutions, il est apparu que de l'enfance au décès de Marie Curie en 1934, les deux sœurs ont tout partagé, que dans chacun des moments forts de la vie de Marie Curie, il y a en réalité son aînée. Leur lien constitue une histoire intime et scientifique unique. Intime parce que Bronia a bousculé les hésitations les plus immatures de Marie, porté ses secrets les plus indicibles et consolé ses chagrins. Scientifique parce que chacune a donné à l'autre la possibilité de faire de la science son métier. Et que par la suite, c'est à Bronia que Marie confia la mise en place de l'Institut de Radium de Varsovie. Mille fois, l'une comme l'autre sont montées dans le train entre la France et la Pologne, ont pris la plume pour échanger des nouvelles privées et des conseils professionnels. Elles ont passé des heures, des jours, blotties l'une contre l'autre pour s'encourager. Ainsi, il y a une femme derrière Marie Curie, sa grande sœur Bronia. Mais ce n'est pas tout. Autour de Marie et Bronia, d'autres personnages nourrissent leur évolution. Elles fréquentent les intellectuels les plus intéressants de l'époque. Nationaliste polonais, professeur au Collège de France, éminent pianiste, prix Nobel de littérature de chimie. Même le premier amour de Marie Curie, un étudiant nommé Casimir Zorawski et abandonné par les biographes au moment où elle gagne Paris, devient quelques années plus tard mathématicien, l'un des plus importants de toute la Pologne. Ainsi, de Lénine à Albert Einstein, de Joseph Conrad au fondateur de la Ligue des droits de l'homme, du maréchal Pilduski au président des États-Unis, Marie Curie et Bronia Dluska sont entrés dans le XXe siècle par la grande porte. En partant sur les traces de Bronia et de Marie, de chaque aspect de leur histoire commune, ce livre permet d'éclairer la vie de Marie Curie sous un nouvel angle. En dévoilant son lien avec sa sœur aînée, on découvre que la grande savante a été perçue à tort comme solitaire, dénuée de chair et de chaleur. Ainsi se révèle une Marie Curie sensible, entourée et extraordinairement vivante. Varsovie, 1884. À quoi rêvent les jeunes bachelières comme Bronia et Maria Slodowska? D'aller à l'université. Bronia en médecine, sa sœur cadette Maria en sciences. Mais l'occupant russe interdit aux femmes de faire des études. Devant cette porte fermée, certaines familles polonaises envoient leurs filles à la Sorbonne, à Paris, la ville lumière où vivent tant de compatriotes en exil. Paris, où se trouve déjà en médecine une poignée d'étudiantes polonaises. Mais il faut de l'argent. Le billet de train, la location d'une chambre, le bois pour le poêle, les frais pendant 4 ans. Avec ses économies, Bronia pourrait tenir à peine 1 an, et son père n'a pas les moyens de l'aider. Du haut de ses 16 ans, Maria propose alors de se faire engager comme gouvernante à Varsovie et d'envoyer à Bronia tous les mois la moitié de son salaire. Ensuite, ce sera son tour. Devenue médecin, Bronia l'accueillera chez elle à Paris et Maria pourra entrer à la Sorbonne. D'accord? D'accord. Bronia et Maria Slodowska, la future Marie Curie, viennent de conclure le pacte le plus déterminant de l'histoire des sciences.
Avant ça, elles ont été quand même 2 ans dans une structure qui s'appelait l'Université Volante à Varsovie. Donc elles ne débarquent pas complètement à l'université pour la première fois. Il y avait une jeune femme patriote et féministe à l'époque en Pologne, Madame Davidova, qui a créé cette université volante clandestine où les filles avaient la possibilité d'aller étudier au péril de leur vie. Les cours étaient donnés par des profs de la fac de Varsovie, donc des vrais professeurs d'université, qui allaient donner des cours dans des caves, dans des greniers, dans des endroits secrets qui changeaient à chaque fois parce que la police du tsar était dans la rue et que s'il y avait une descente, tout le monde partait en Sibérie. Donc c'est des gens qui ont beaucoup risqué leur vie pour apprendre des choses. C'est assez admirable. Et du coup, il y a cette université volante qui va former quand même 3000 filles en quelques années. Ça, finalement, cette pauvre femme qui leur a fondé se suicide sous la pression politique en 1910. Mais en tout cas, Marie et Bronia, elles ont bénéficié de quelques formations là.
Page 21, l'université volante. Cependant, il existe à Varsovie un réseau clandestin d'instruction supérieure. L'université volante, Fondée par une patriote féministe de 20 ans, l'enseignante Jadwiga Sgawinka Dawidowa. Elle veut que les femmes reçoivent la même éducation que les hommes. Bronia et Maria y sont inscrites dès 1884. Elles ont alors 19 ans et 17 ans. C'est leur ancienne institutrice qui, la première, a eu vent de cette initiative récente. Elle retrouve une amie, Maria Rakowska, et lui offre une photo à la dédicace optimiste, à une positiviste idéale de deux idéalistes positives. Mathématiques, biologie, chimie, physique, anatomie, histoire, sciences sociales. Les enseignants viennent pour la plupart de l'Université de Varsovie et les leçons, gratuites et sanctionnées par l'obtention d'un diplôme, ont lieu 4 soirs par semaine. Beaucoup d'élèves ont déjà un emploi. Ainsi, Maria fait la lecture à haute voix à un groupe de couturières qui l'écoutent en brodant. Elle n'oubliera jamais l'université volante. Je garde des souvenirs très clairs de cette sympathique communauté intellectuelle et sociale qui me réjouissait à l'époque, écrira-t-elle dans son esquisse autobiographique. Les moyens d'agir étaient bien sûr infimes, tout comme les résultats. Mais je pense jusqu'à maintenant que les idées qui nous guidaient alors indiquent le seul chemin vers un progrès social perceptible. On ne peut pas espérer construire un monde meilleur sans améliorer le sort des simples individus. Dans ce but, chacun devait tendre à se perfectionner et en même temps accepter sa part de responsabilité de l'entière humanité. Car nous avons le devoir particulier d'aider ceux à qui nous pouvons être utiles.
Donc Bronia prend son train 3 jours et 3 nuits à travers la Pologne, l'Allemagne, la France, etc. Et elle arrive donc à Paris, où elle s'inscrit en médecine assez courageusement, parce que c'est pas parce que la Sorbonne, donc on dit la Sorbonne parce que la fac de médecine était intégrée à la Sorbonne, aujourd'hui c'est plus tout à fait les mêmes termes, mais elle s'inscrit en médecine, et alors là, c'était bien que ce soit ouvert pour aux filles, évidemment, sauf qu'elle est quand même une femme, ils n'ont pas l'habitude, les Français. C'est une ambiance extrêmement misogyne. Il y a des descriptions formidables de ces pauvres étudianteux arrivant dans les amphis de médecine avec tous les garçons qui sifflent, qui disent des choses lourdes, ils sont encore là aujourd'hui, hein, donc j'ai pas besoin de voilà. Mais à l'époque, elles sont vraiment minoritaires, quoi. Donc c'est assez compliqué. Et puis ils ont la justice avec eux à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc elle essaie de faire sa place. Et non seulement c'est un milieu misogyne, parce que les Françaises, elles sont pas à l'université depuis très longtemps non plus. C'est un milieu donc où les seules femmes qui y sont des étrangères, ce qui est pas mal pour Bronia. Elle a des copines polonaises comme ça à l'intérieur. Sur 2000 étudiants en médecine à ce moment-là, il y a 114 femmes et elles sont quasiment toutes étrangères et quasiment toutes polonaises ou russes. Et la deuxième chose, c'est que quand même c'est en français, donc c'est pas parce qu'on a appris le français à Varsovie qu'on va se débrouiller en médecine. Donc c'est double quand même, double travail pour elle d'arriver à maîtriser tous ces concepts, tous ces mots médicaux compliqués. Donc elle va fournir un effort colossal. Elle dort, elle habite dans une petite chambre au 6e étage, une mansarde comme la mansarde qu'on décrit dans les biographies de Marie Curie, c'est la même. D'ailleurs, c'est la même en fait. Rue Scipion, pas très loin d'ici. Et donc, c'est pour se réchauffer, elles vont à la bibliothèque polonaise parce que là, c'est chauffé à côté du Panthéon. Elles crèvent de faim, elles bossent. Enfin, c'est des conditions très, très difficiles. Elles participent aux cours comme les garçons. J'ai trouvé une gravure de l'époque où elles font les cours d'anatomie aussi sur des cadavres qui sont pour la plupart du temps des cadavres de clochards qu'on n'a pas identifiés et qu'on donne comme ça aux étudiants de médecine. Et puis, quelques-unes vont arriver jusqu'à la thèse. Ça, c'est une compatriote polonaise qui a soutenu sa thèse. Donc, c'est une belle représentation de la solennité de l'événement. Bronia, pour sa part, elle a toujours eu envie de faire de la médecine sociale. Elles ont ça très fortement, les deux sœurs en elles, le côté social. Et donc, elle va s'intéresser à la médecine des femmes. Elle va devenir médecin des femmes, comme on appelait ça. Et elle va travailler sur l'allaitement maternel.
Les Sorbonnardes. Bronia n'y avait pas pensé, mais ce qui est encore plus compliqué que de venir d'un pays étranger, c'est d'être une femme. En France, il en faut des pressions pour que les institutions s'ouvrent à la mixité. Curieux, se disent certaines étudiantes. Pourquoi ces résistances alors qu'au Moyen-Âge, il y avait des femmes médecins ? À preuve, écrit Caroline Bertillon-Schultz en 1888 dans La femme médecin au XIXe siècle, l'édit de 1311 réglementant l'organisation du service médical dans le royaume. Cet édit fait défense à tout chirurgien ou chirurgienne d'exercer sa profession sans avoir préalablement subi un examen devant un jury spécial. Tout aussi choquée, une autre Polonaise, Mélanie Lipinska, s'exclame dans son « Histoire des femmes médecins » publiée en 1900. En 1292, il y avait à Paris 8 femmes médecins. À un moment, les portes se sont donc fermées. Si les femmes n'ont pas pu s'inscrire en médecine avant 1868, c'est parce qu'en face, l'opposition était féroce. À partir du XVIe siècle, avance encore Mélanie Lipinska, le chartulaire de l'Université de Paris abonde en documents relatifs à la lutte contre la femme médecin. La faculté de Paris, après de longues luttes, remporta définitivement la victoire sur les femmes médecins et les chassa du temple d'Esculape. Selon elle, avec la centralisation du royaume et la fin des querelles féodales entre le XVe et le XVIIe siècle, les hommes désœuvrés ont exclu les femmes des places qu'elles avaient occupées sans problème. L'énergie des hommes se tourna vers la culture intellectuelle, abandonnée jusque-là surtout aux femmes et aux clercs. Les femmes eurent donc contre elles la force physique d'abord et ensuite le gouvernement, qui, composé d'hommes, protégeait les hommes. Elles perdirent leurs droits un à un. Heureusement pour les futures sorbonnardes, la seconde moitié du XIXe siècle s'honore d'un féminisme efficace, porté par des personnalités sages, à l'instar des positivistes en Pologne. Leurs messages, égalité des sexes et justice, vont de pair. Sauf que, tradition oblige, certains notables freinent le progrès social. Pas question d'ouvrir aux femmes des professions réservées aux hommes. Pourquoi ne pas leur accorder le droit de vote tant qu'on y est ? En 1875, le docteur Gustave Antoine Richelot s'inquiète dans son opus « La femme médecin ». Ces jeunes femmes perdent toute leur grâce, tout leur charme, tout l'attrait de leur sexe. Ce ne sont plus ni des femmes ni des hommes. Le professeur Charcot, célèbre neurologue, pionnier de l'hypnose et de l'hystérie, argumente que les femmes sont trop délicates, fragiles, sensibles. Comment pourraient-elles supporter la vue du sang, d'une intervention chirurgicale ? Où puiserait-elle la force physique de soulever les malades ? Il redoute également que les docteurs ne volent la place des hommes et que cela ne crée un trouble dans le genre. Un regrettable mélange des sexes. Et puis les voilà prévenues, elles ne trouveront pas de mari et finiront vieilles filles. L'ambiance à la faculté de médecine ne brille pas par sa bienveillance. Les ricanements gras d'étudiants misogynes perturbent les cours. Dès que leurs consoeurs apparaissent dans l'amphithéâtre, ils jettent des pommes, se mettent à piailler et à caqueter. Comme le résume Caroline Bertillon-Schultz en 1888, partout, les femmes qui ont, à l'avant-garde, combattu pour leur émancipation intellectuelle et professionnelle ont eu des difficultés de toutes sortes à vaincre. Mais leurs rares prédécesseurs en médecine, les pionnières, ont creusé un sillon. L'anglaise Elizabeth Garrett, diplômée à Paris en 1870, après avoir étudié à Londres et s'être formée toute seule à l'anatomie. Elle sera aussi la première femme élue maire à Alderbourg dans le Suffolk. La Française Madeleine Bress. Pour s'inscrire en médecine, il lui a fallu l'accord de son mari, signé devant le maire du 5e arrondissement de Paris le 24 octobre 1868. Ou encore l'américaine Augusta Klumk, première interne des hôpitaux de Paris en 1886, grâce à l'appui du ministre de l'Instruction publique, Paul Berthe. Le nombre des étudiantes en médecine augmente chaque année. Elles sont 4 en 1868, 37 en 1880 et 114 en 1887, principalement des étrangères. Bronia rejoint les rangs des Polonaises arrivées en même temps qu'elle. À la rentrée 1887, sur les 114 étudiantes inscrites en médecine, on croise 20 polonaises et 70 russes. Il y a aussi 8 anglaises, une américaine, une autrichienne, une grecque, une turque et seulement 12 françaises. Les jeunes françaises ne se destinent pas encore aux études. Ainsi, pour s'inscrire en médecine, il faut le baccalauréat ou des équivalences. Or, la première française à se présenter aux épreuves du baccalauréat, c'est Julie Victoire Daubier en 1861, à peine 25 ans avant l'arrivée de Brogniat à Paris. Cependant, le progrès est en marche. La loi du 10 avril 1867 a contraint les communes de plus de 500 habitants à créer une école pour les filles. En décembre 1880, Jules Ferry formalise les cours d'enseignement secondaire à destination des jeunes filles. Les Françaises sont donc retenues en arrière par la nouveauté, par l'antiféminisme ambiant, par des familles apeurées que leurs filles ne s'égarent parmi les carabins et parce que l'école ne leur permet pas encore d'acquérir le niveau de connaissances requis. Devenir médecin pour une Française, c'est comme partir sur la Lune. En revanche, les jeunes femmes venues d'ailleurs, elles ont du courage à revendre. Quand on a tremblé à l'idée de voir les soldats du tsar interrompre à tout instant un cours illégal et déporter l'enseignante en Sibérie, on ne va pas faiblir devant quelques bourgeois réticents à l'égalité. Brogniat doit réussir ce parcours pour que son père soit fier, lui qui a tant fait pour qu'elle ait confiance en elle, pour Jadwiga et Jeanne à l'université volante, pour rembourser Maria et pour n'avoir pas tout quitté pour rien. Au diable ceux qui ignorent encore que le cerveau n'a pas de sexe. Les étudiantes étrangères fascinent. La Marseillaise du 9 janvier 1893 constate « Elles résolvent l'étonnant problème de se nourrir, se vêtir, d'acheter livres et papiers. Entre leurs heures d'études, elles sont copistes, donnent des cours, blanchissent, reprisent, brodent pour le compte d'autrui. » Le quotidien La Fronde, fondé et dirigé par la féministe Marguerite Durand, leur consacrera 3 longues tribunes consécutives en juin 1898. Ainsi s'ouvre la première. Les étudiantes polonaises et russes ne sont généralement pas des amoureuses, mais bien plus des petites Don Quichotte, me disait dernièrement fort joliment et justement une femme qui les connaît bien pour les avoir aidées, leur avoir offert chez elles une généreuse et cordiale hospitalité. Ces jeunes filles arrivent à Paris, continua Madame Chaliga, après avoir lu tous les philosophes, tous les grands penseurs qui rêvent l'avènement d'une société où les lois ne seraient que justice et bonté. Elles ont tous les enthousiasmes et rêvent d'apporter leur part, si humble soit-elle, à la construction de cet idéal de générosité et de solidarité. Malheureusement, mes petites Don Quichotte sont généralement pauvres. Elles ont mis des ans à amasser le petit pécule qui leur permet de se rendre à Paris. Et riches de quelques centaines de francs, elles croient posséder le levier qui les aidera à changer le monde, à pacifier les cœurs et les esprits. Elles vont vivre sous les toits dans d'étroites mansardes, sans feu en hiver, sans air en été, et n'ayant qu'un budget de 25 à 50 francs par mois pour toutes leurs dépenses. Certaines, plus fortunées, ont jusqu'à 75 francs pour 30 jours. La richesse. Mais très dure à la souffrance, très résistante aux 1000 privations dont leur vie matérielle est faite, pas coquettes, elles se mettent courageusement à l'étude, passant des nuits sur leurs livres, pressées d'obtenir les diplômes qui leur donneront, croient-elles, avec la vie matérielle largement assurée, la possibilité de réaliser leurs rêves de justice et d'amour universel.
Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia, logo da noite dos tempos, mulleres, nos continente negro. Ergámonos, mulleres, rachemos as barreiras en pé, en pé, en pé. Xugo aldrasadas, mulleres trafegadas, violadas, dentro de todas as casas, mulleres
do mundo illadas.
Ergámonos, mujeres, tracemos as barreiras.